Voici le journal de Xavier Demagny. Bonjour Xavier.
Bonjour. Une cérémonie qui ne ressemblera à aucune autre. Format inédit pour les Oscars cette année avec un cinéaste aux manettes, Steven Soderbergh, et des films qui, pour certains, n'ont jamais été projetés dans les salles. À la une également, l'enquête après l'attaque au couteau de Rambouillet. 4 personnes toujours en garde à vue. L'assaillant s'était plaint de troubles psychiatriques récemment. Les derniers éléments dans un instant. Nous irons également au Japon où la vaccination contre le Covid-19 n'avance pas beaucoup. Et puis, à la veille de la reprise pour les écoliers, bilan de ces vacances organisées au pied levé, pas toujours négatif pour certaines activités qui ont trouvé une clientèle de proximité. Et puis des sports, une classique du cyclisme aujourd'hui, Liège-Bastogne-Liège, Alaphilippe plus motivé que jamais, et la nouvelle génération française au championnat du monde de rallye.
L'invité à 8h20, il s'agira de l'islamo-gauchisme. Question ce matin sur ce concept. Selon le sociologue Michel Wiewiórka, auteur du livre Racisme, antisémitisme, antiracisme, apologie pour la recherche, paru aux éditions La Boîte à Pandore. C'est un rapport pour répondre aux déclarations polémiques de la ministre de l'Enseignement supérieur.
France Inter.
Tout faire pour maintenir une cérémonie prestigieuse dans un contexte si étrange. La 93e cérémonie des Oscars ne ressemblera à aucune autre. Décalée de 2 mois à cause de la pandémie, elle se tient cette nuit à Los Angeles dans un format totalement nouveau et avec aux manettes le réalisateur Steven Soderbergh. Sur place, Loïc Piala.
Les producteurs promettent une cérémonie plus proche d'un film que d'une émission de télévision, avec notamment, disent-ils, une introduction à tomber de son siège. Ils veulent clairement rafraîchir un événement aux audiences en chute libre. Ambitieux, mais l'ingénieux Steven Soderbergh, réalisateur grand public et expérimental à la fois, offre des garanties dans ce domaine. Une grande partie de la soirée a été délocalisée à Union Station, la superbe gare de Los Angeles. Environ 200 invités, 15 fois moins que d'habitude, y seront présents en personne. D'abord parce que la situation sanitaire en Californie le permet, ensuite et surtout parce que l'équipe derrière ces Oscars 2021 n'a pas envie de revivre les problèmes techniques ou de revoir les garde-robes pas toujours glamour d'autres remises de prix cette année. Les téléspectateurs auront même l'occasion de voir le visage des nommés puisque le port du masque ne sera obligatoire que lors des pages de pub, des coupures nombreuses dans une cérémonie de 3 heures. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
8 films sont en lice pour succéder à Parasite au titre du meilleur long métrage. Parmi les plus attendus, certains ne sont pas sortis au cinéma, mais sur les plateformes ou en avant-première sur des chaînes payantes. D'autres vont attendre la réouverture des salles obscures, The Father du français Florian Zeller, ou bien le grand favori Nomadland de Chloé Zhao, un film dont la sortie chinoise a été purement et simplement annulée en cause des propos critiques tenus envers le régime de Pékin par la réalisatrice, comme l'explique François Godemont, spécialiste de la Chine.
Chloé Zhao est d'origine chinoise, même si elle est aujourd'hui américaine. Seulement voilà, des internautes se sont rendus compte qu'en 2013, elle avait critiqué la Chine en disant que c'était un pays de mensonges et qu'elle a dit qu'elle était heureuse d'avoir pris un passeport américain. Elle est donc qualifiée de traître et aujourd'hui, on s'aperçoit que sans qu'il y ait une interdiction formelle, il n'est plus possible d'acheter de billets. Il est probable que les autorités chinoises considèrent que moins on en parle, mieux ça vaut. Ça dit que le gouvernement chinois reste extrêmement vulnérable aux critiques, surtout quand elles risquent de se diffuser à l'intérieur de la Chine, et que les critiques de Chinois basés hors de Chine sont non seulement rejetés, mais ils sont effectivement en pratique bannis, si j'ose dire, de la communauté chinoise.
François Godemont, spécialiste de la Chine, avec Omar Waman, les Oscars à suivre sur Canal+, ce soir retransmis en clair, à partir de 12h30.
L'actualité ce matin, c'est aussi l'enquête sur l'assassinat de cette fonctionnaire de police à Rambouillet vendredi.
4 personnes sont toujours en garde à vue, essentiellement l'entourage de l'assaillant abattu juste après cette attaque au commissariat de cette commune des Yvelines. L'assaillant, justement, dont les enquêteurs tentent de dresser le portrait et le parcours, un Tunisien de 36 ans, inconnu des services de renseignement, qui semblait dépressif et fragile, Sophie Parmentier.
Jamel Gorchen, Tunisien de 36 ans, chauffeur-livreur célibataire vivant chez son père à Rambouillet, s'était plaint récemment de persécutions et de délires paranoïaques. C'est en tout cas ce que son père a indiqué aux enquêteurs. Et les policiers ont retrouvé des traces de consultations psy, mais pas de suivi ni de traitement médicamenteux. Ce matin, les enquêteurs continuent à interroger plusieurs personnes en garde à vue pour comprendre comment Jamel Gorchen est devenu ce tueur qui a poignardé une fonctionnaire de police dans son commissariat au cri de Allahu Akbar, cette formule si souvent reprise par les djihadistes. La dernière vidéo consultée par le tueur dans son téléphone portable était un clip d'Anachid, ces chants religieux eux aussi utilisés par la propagande djihadiste. Mais Jamel Gorchen a-t-il réellement frappé au nom d'une idéologie terroriste ? Avait-il un donneur d'ordre ou était-il un homme isolé qui a basculé psychologiquement jusqu'à commettre ce crime terrorisant ? Son profil était peut-être mixte, selon une source proche de l'enquête. Le profil que redoutent le plus les services de renseignement, car difficilement détectable.
Sophie Parmentier, service police, justice d'intérêt. Dans la matinée, on en saura un peu plus. Le procureur national antiterroriste doit donner des précisions sur l'enquête. Hier, Emmanuel Macron a discrètement rendu visite à la famille de la fonctionnaire de police, Stéphanie, 49 ans, qui était mère de deux filles de 13 et 18 ans. Et cette attaque replace la menace terroriste au sommet de l'agenda politique. Un projet de loi sera présenté mercredi en Conseil des ministres. Le texte doit pérenniser certaines mesures qui permettent un contrôle plus long et plus efficace des condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison. C'est ce qu'affirme Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dans le journal du dimanche. De nouvelles restrictions en Guadeloupe à venir. La situation épidémique est inquiétante. La tension hospitalière l'est encore plus. Au-delà du couvre-feu, les déplacements seront limités à partir de mardi et pour 3 semaines, les restaurants et commerces fermés. L'accès aux plages et rivières restreint. Ce matin, le Premier ministre Jean Castex est attendu à l'aéroport de Roissy pour constater la mise en place des mesures de contrôle pour les passagers en provenance des pays à fort risque. Au Japon, là, c'est un 3e état d'urgence en un an qui vient d'être décrété dans 4 départements, dont celui de Tokyo. Fermeture des commerces non essentiels, des lieux de loisirs et d'une partie des restaurants. Face aux variants, les hôpitaux sont au bord de la saturation et la campagne de vaccination piétine. Moins de 2% de la population a reçu une première dose. Le pays n'en produit aucune et dépend totalement des livraisons. Au Japon, pour Inter, Karine Nishimura.
Clinique de Yokosuka, banlieue de Tokyo, 17e et dernière injection vaccinale pour cette journée.
Je désinfecte.
Yasuhiro Mizuno, médecin, directeur de ce vaste cabinet médical.
Dans des cliniques comme ici, on vaccine les soignants, puis les pharmaciens des environs. Ensuite seulement viendront les personnes âgées, ce n'est pas pour tout de suite.
Attention, je pique.
Les doses pour les personnes âgées ne sont pas arrivées.
Le gouvernement japonais dit « on a commencé à vacciner les personnes âgées », mais il ne s'agit que d'un nombre très limité de vieillards dans des maisons de repos. La très grande majorité des plus de 65 ans n'est pas concernée.
Pourtant, le Premier ministre promet que les 36 millions de personnes âgées seront totalement vaccinées dans 3 mois avec le vaccin Pfizer, le seul approuvé.
Je suis sceptique sur la possibilité d'avoir fini les 2 injections pour les personnes âgées d'ici à fin juillet. Au rythme actuel, c'est impossible.
L'intégralité des 127 millions d'habitants ne seront probablement pas vaccinés avant début 2022. Yokosuka, Karine Nishimura pour France Inter.
23 personnes tuées dans un incendie en Irak au sein d'une unité de soins pour malades du Covid. Ce sont des bouteilles d'oxygène stockées sans respect des conditions de sécurité qui sont à l'origine de l'incendie. En bref, encore la réaction turque qui ne s'est pas fait attendre après la reconnaissance du génocide arménien par le président des États-Unis. La Turquie n'a de leçon à recevoir de personne sur son histoire, a déclaré le ministre des Affaires étrangères qui a convoqué l'ambassadeur américain pour protester. Un geste en revanche salué par l'Arménie comme une mesure forte envers la justice et la vérité historique.
En France, après la suppression de l'ENA, Emmanuel Macron veut s'attaquer désormais au grand corps d'État.
Une prestigieuse institution administrative réservée aux meilleurs élèves qui sortent de l'École nationale de l'administration justement, mais aussi de Polytechnique ou de Normale Sup. Marc Potvin, là aussi le chef de l'État, y pense depuis longtemps.
La promesse date d'il y a 2 ans. « Je souhaite que nous mettions fin au grand corps », déclarait le président à l'issue de la crise des Gilets jaunes. Cette suppression est bel et bien sur les rails. Le ministère de la fonction publique confirme l'hypothèse d'une extinction des grands corps, dont celui de la prestigieuse Inspection Générale des Finances, là où tout a commencé pour Emmanuel Macron à la sortie de l'ENA. Il est question aussi du corps de l'Inspection Générale de l'Administration, également de celui de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. au fil des années, ils sont devenus des citadelles au cœur de la haute fonction publique. Cette hypothèse, en tout cas, est sérieuse. En cohérence avec la vision du chef de l'État, observe un conseiller, plus question d'avoir des fonctionnaires fraîchement diplômés qui intègrent une inspection et n'en bougent pas. Ils n'y feraient plus qu'une partie de leur carrière. Dans un pays dirigé à plusieurs reprises par des membres de ces grands corps, leur suppression serait une révolution. On fait dans la dentelle, reconnaît l'exécutif.
Ce matin, la ministre de la Fonction et de la Transformation publique annonce que 74 classes préparatoires ont été sélectionnées. Elles vont former le futur concours talent d'entrée au futur institut du service public, l'ISP, qui doit remplacer l'ENA. Objectif, permettre à 1700 élèves boursiers de préparer les concours. Les concours, les examens, il va falloir se remettre en selle. Dernier jour avant la reprise pour les écoles en présentiel, encore à distance une semaine pour les collèges et les lycées. Tout ça après des vacances aux dates légèrement forcées, souvent organisées au débotté et surtout contrainte par la règle des déplacements à moins des 10 km autour de chez soi. Impossible de traverser la France ou d'aller à l'étranger, l'occasion de découvrir sa propre région, ce qui a bénéficié aux cabanes de Joncherie dans le territoire de Belfort. Malgré des annulations, bilan satisfaisant pour ses congés avec une nouvelle clientèle de proximité, le directeur du site Aurélien Chauvageau.
On a des nouveaux cabaneurs qui sont venus découvrir l'endroit, proche de chez eux, qui avaient certainement, on en a parlé avec eux, réservé des vacances un petit peu plus loin et qui donc ont été malheureusement obligés de les annuler. Et ça nous a permis de les accueillir chez nous et de leur faire découvrir l'endroit. Sur la période de vacances scolaires, effectivement, très prisée au niveau de nos cabanes familles. Et on a eu aussi des couples, voilà, une bonne centaine de réservations de gens des environs qui sont venus passer un moment dans la nature. Ils en avaient besoin, je pense, avec les annonces gouvernementales et la durée de cette crise sanitaire. Et donc, nous, on était ravis, bien entendu, de pouvoir les accueillir et les faire sortir un petit peu de ce quotidien morose, tout simplement se détendre. Et on a pris soin d'eux.
Voilà, des trésors à découvrir autour de chez soi et des contraintes de déplacement en journée levées à partir du 3 mai. En revanche, le couvre-feu, lui, est maintenu à 19h.